Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Tout le monde connaît bien sûr Ulysse, Pénélope, Télémaque. Tout le monde sait à quoi ressemble un cyclope et chacun de nous utilise encore aujourd'hui des expressions comme cheval de Troie ou talon d'Achille. Mais que savons-nous de l'auteur d'Ulysse et de l'Iliade ? Qui était Homère, si tant est qu'il ait existé un jour? Pour répondre à cette question, une belle exposition à voir où Louvre lance jusqu'au 22 juillet. Et notre invité ce matin est un des commissaires de cette exposition, Vincent Pomarède.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
Toute une exposition sur l'influence du poète grec qui n'a peut-être pas existé, Vincent Pomarède. Bonjour.
Bonjour.
Ben, si ça se trouve, il n'a pas existé, Homère.
Certains auteurs pensent qu'il n'a pas existé. En fait, dans l'Antiquité, visiblement, les anciens ne se posaient pas la question et considéraient que c'était une personne historique. On avait même beaucoup d'anecdotes sur sa vie. Et puis, au cours du temps, les doutes ont commencé à s'installer. Et à partir du 18e et du 19e siècle, on a vraiment douté. On s'est demandé s'il existait réellement, si ça n'était pas plusieurs personnes dont l'œuvre avait été réunie autour d'un seul nom. Et puis on s'est demandé également quel était son rôle. Est-ce qu'il avait vraiment écrit ? Est-ce qu'il avait fait que récolter des traditions orales qui s'étaient transmises à travers le temps
et qui se transmettent encore aujourd'hui?
Absolument.
Tout va bien.
Absolument, heureusement, ouais. Heureusement. Donc quel était son rôle ? Est-ce que c'était un poète de génie ? Est-ce que c'était seulement un compilateur ? Est-ce qu'il a vraiment écrit l'Iliade et l'Odyssée en entier ? Qui a écrit tous les autres textes qui existent sur la guerre de Troie ? Donc aujourd'hui, le mystère est encore entier, même si les camps se sont un peu radicalisés entre ceux qui considèrent qu'il existe vraiment et ceux qui pensent que ça a été simplement un compilateur à un moment de l'histoire.
Et vous-même, vous appartenez à quel camp, Vincent Pomarède ?
Je suis plutôt dans le camp de ceux qui pensent que c'était un compilateur de génie. Parce que quand on regarde tous ces poèmes qui apparaissent à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, de manière complètement orale, quand on voit leur transmission jusqu'au 4e siècle avant Jésus-Christ, moment où sans doute on a commencé à mettre noir sur blanc ces poèmes, on distingue quand même très clairement deux types d'œuvres, des œuvres qui sont intéressantes mais qui racontent l'histoire d'une façon assez simple et pas toujours d'une très belle qualité littéraire, et puis deux textes qui se détachent vraiment du lot, qui sont l'Iliade et l'Odyssée. Alors les histoires sont les mêmes, mais il y a quand même derrière quelqu'un qui écrit remarquablement bien, et je pense que, en tout cas c'est ma vision des choses, que Homère a su intelligemment compiler des textes, des histoires qu'il a donc mis noir sur blanc dans l'Iliade et l'Odyssée, avec un talent littéraire tout à fait exceptionnel.
Ouais, depuis cette Grèce antique qui s'adresse à tous les temps et à tous les univers, la preuve donc cette exposition. En fait, quand je disais qu'elle tentait de répondre à la question de savoir si Homère a existé ou pas, c'est juste une manière d'accrocher les auditeurs, mais en réalité la véritable signification et le véritable avantage d'aller à cette exposition, c'est de voir à quel point Homère a influencé des artistes, des scientifiques, des hommes de culture, et puis il a influencé à peu près tout le monde, un peu partout, toute époque confondue.
Oui, c'est très fascinant. Peut-être parce que avec la Bible, c'est le premier texte de l'histoire de la littérature et de la poésie. Peut-être aussi parce que les histoires racontées par Homère sont très fortes, très puissantes et également très émouvantes dans certains de leurs aspects. Sûrement parce qu'il a tout inventé dans le domaine de la littérature. Il a inventé les raccourcis, il a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui le flashback, avec des retours en arrière. Il a inventé les narrations multiples, qui sont évidemment pour la littérature des choses tout à fait importantes. Et sûrement parce que tout de suite, dès l'Antiquité, les gens ont admiré ces héros et ces héroïnes. Et dès l'Antiquité, on a un enracinement très profond dans les arts, toutes les formes d'art d'ailleurs, toutes les formes de littérature. Dès l'Antiquité, des auteurs comme Théocrite ou comme Plutarque font les premières satires. Donc on commence à se moquer des textes d'Homère en fait dès l'Antiquité, et moi je dis toujours que l'humour et l'ironie appliquée à un auteur, c'est la marque de son succès. Et ensuite, ça ne s'est pas arrêté, y compris durant la période du Moyen-Âge, où effectivement, il y a peut-être eu un peu moins d'inspiration du côté des artistes. À partir du XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, tous les domaines de la création, que ce soit musical, littéraire ou des beaux-arts, se sont intéressés à Homère, s'en sont inspirés, parfois de façon complètement littérale, parfois en reprenant des systèmes poétiques ou des natures de récits. Et évidemment, les nouveaux arts aujourd'hui continuent, que ce soit le cinéma, la bande dessinée, la publicité, tous les arts du XXe siècle et du XXIe siècle continuent à s'intéresser à Homère et à s'en inspirer.
Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette exposition? On peut voir l'influence, effectivement, d'Homère sur tous les arts, on peut le dire, hein. Peinture, statues, tapisserie.
Oui, alors nous avons voulu rendre le sujet le plus accessible possible pour les publics, avec deux présupposés. Le premier, c'est que les gens effectivement connaissent Homère, savent qui sont certains de ses héros, pas tous, mais enfin une grande partie. Beaucoup de gens, à un moment de leur scolarité, ont lu des extraits de l'Iliade ou de l'Odyssée, mais au fond, le mécanisme homérique n'est pas forcément connu de tous. Et d'autre part, nous voulions aussi rendre l'exposition très vivante et ne pas suivre un parcours chronologique classique, un peu universitaire, un peu dogmatique. Et donc, nous avons eu comme choix de mélanger effectivement toutes les techniques. Et effectivement, le visiteur sera confronté à toutes les formes de ce que l'on appelle les beaux-arts, mais également à des enregistrements d'opéra ou de musique classique ou moderne.
Oui, il y a une playlist, Homère.
Oui. On a des écrans qui permettent de diffuser des films, aussi bien des films muets que des films plus récents. Donc, il y a vraiment une diversité des supports de création. Et d'autre part, également, on a voulu mélanger les époques. C'est-à-dire qu'on se dit, si on traite un thème, que ce soit une bataille dans l'Iliade ou un épisode raconté par Ulysse dans l'Odyssée, eh ben on va montrer la manière dont les artistes de toutes les époques ont traité ce thème spécifiquement. Donc le parti de l'exposition, il est volontairement de mélanger les époques et de mélanger les techniques. Après, on savait qu'il fallait expliquer certaines choses. On parlait tout à l'heure de la figure d'Homère. L'exposition s'ouvre sur un moment très fort qui sont des grandes statues monumentales représentant les dieux. Puisque
dieux de l'Olympe.
C'est
le point de départ.
Oui, c'est le point de départ et ce sont aussi des héros de l'Iliade et l'Odyssée, les dieux. Donc le visiteur est d'abord confronté à
impressionnantes statues qui viennent d'où d'ailleurs?
Alors qui viennent pour la plupart en fait d'un lieu peu connu qui se trouve à Versailles, qui s'appelle la Gypsothèque, où sont conservés les moulages sur lesquels travaillaient les étudiants de l'école des Beaux-Arts au XIXe siècle. Et ces moulages ont été conservés, ont été restaurés et sont donc présentés dans cette exposition avec un original en marbre d'époque romaine qui représente une muse et qui vient couronner cette assemblée des dieux. C'est comme ça que nous l'avons appelée, l'assemblée des dieux. Et juste après, l'introduction porte sur cette personnalité d'Homère. Existe-t-il, n'existe-t-il pas, etc. De façon à ce que le visiteur parte dans les thèmes homériques avec la base en quelque sorte qu'il faut connaître pour pouvoir comprendre son œuvre.
Et puis, toujours avec vous, Vincent Pomarez, vous êtes un des quatre commissaires de cette exposition où l'ouvre lance. Homère, avec vous, on va déambuler. Vous restez avec nous ce matin, c'est le Réveil culturel sur France Culture.
Ricchezze, grandezze, dispenso il mio modo, dispenso.
autour de l'exposition Homère au Louvre-Lens jusqu'au 22 juillet. Je suis avec Vincent Pomarède. Vous venez d'écouter un des morceaux que vous nous proposez dans cette exposition Homère, puisqu'il y a, je disais tout à l'heure qu'il y avait une playlist Homère, mais c'est vrai, là on vient d'écouter un extrait du retour d'Ulysse dans sa patrie. C'est le prologue de Claudio Monteverdi, effectivement, et c'est dirigé ici par Claudio Clavina. Il y a aussi des grands chefs-d'œuvre présents qui représentent une scène de l'Iliade ou de l'Odyssée ou une scène inspirée par le monde homérique.
Oui, dans le domaine de la peinture, évidemment, c'est un auteur qui a beaucoup marqué les artistes. Nous avons des représentations du Jugement de Paris par Watteau, par exemple, qui est un petit tableau absolument ravissant qui est prêté par le département des peintures du Louvre. Nous avons la figure d'Hélène, très belle figure, qui est en train de rêver sur les murailles de Troie et qui se culpabilise de tout ce qui est en train d'arriver. C'est un tableau de Gustave Moreau qui a été prêté par le musée d'Orsay. Plusieurs tableaux, gravures, dessins assez étonnants de Marc Chagall, parce que les artistes du début du XXe, eux aussi, se sont intéressés à Homère. Et puis, alors des artistes peut-être moins connus, mais qui relèvent de mouvements académiques très importants au XIXe siècle, comme les frères Bénouville, qui étaient des élèves d'Ingres, qui ont travaillé dans le cadre de leur concours pour le Grand Prix de Rome sur les thèmes homériques. Je dirais qu'à un moment ou à un autre, tous les grands artistes du XVIIe au XXe siècle se sont intéressés à Homère. L'exposition étant organisée thématiquement, nous avons choisi de retenir certains épisodes. Pour l'Iliade, nous sommes surtout intéressés au thème des batailles, au thème de la mort. Donc c'est une partie qui est très vivante, très mouvementée, très spectaculaire et dramatique. Alors qu'au contraire, du côté de l'Odyssée, nous avons retenu plutôt, hormis un petit chapitre sur les monstres qui était incontournable,
il y avait les figures féminines.
Voilà,
bien sûr.
Plutôt les figures féminines, toutes ces femmes dont Ulysse raconte les amours qu'il a pu avoir avec elles. En fait, ce qui est toujours très amusant dans l'Odyssée, c'est qu'il passe son temps à dire qu'il aime Pénélope, qu'il veut retrouver Pénélope, mais en fait, il l'a abondamment trompé tout au long du parcours, jusqu'aux retrouvailles finales, effectivement, qui sont magnifiques. On a cherché aussi des raretés. Par exemple, on a une grande peinture d'André Derain qui représente le massacre des prétendants. Et c'est une grande surprise pour le visiteur de voir qu'André Derain, qu'on connaît surtout comme un compagnon de route des peintres fauves et des courants d'avant-garde du début du XXe siècle, s'est inspiré d'un thème homérique et d'un des thèmes les plus violents, en fait, et les plus narratifs même, qui est celui du massacre des prétendants. Et puis le visiteur, je pense, pourra admirer un magnifique ensemble qui traverse toute l'exposition de vases grecs qui nous ont été prêtés par les musées du monde entier, les musées grecs bien sûr, le Metropolitan Museum de New York. Tous ces vases grecs ayant été peints par des artistes extrêmement célèbres durant l'Antiquité. Et évidemment, ils viennent répondre en écho aux peintures et aux sculptures qui sont présentées d'époque plus moderne finalement.
Et des cartes, puisqu'on a aussi, j'allais dire, la carte est le territoire de l'Iliade et de l'Odyssée.
Oui, on a plusieurs cartes en fait. Il y a d'abord la carte des voyages imaginaire d'Homère lui-même, puisque dans les récits antiques, légendaires ou non, il y a un certain nombre de voyages qui lui auraient permis d'acquérir une expérience, et voyages durant lesquels il composerait ses poèmes ou il les réciterait dans les rues des villes. Et puis il y a la carte de l'Odyssée, surtout parce qu'effectivement c'est là où le périple est important. On finit, à force d'avoir des aventuriers qui se sont intéressés à cela, par avoir un peu une idée des lieux que Homère avait retenus et qui existent toujours, à commencer par l'île d'Ithaque, qui est l'île dont Ulysse est le roi. Et donc il faut que le visiteur puisse s'y retrouver, parce que évidemment tout le monde ne connaît pas bien la Grèce, tout le monde ne connaît pas bien les îles grecques, et il faut faire la part entre l'imaginaire et le réel, bien sûr, à chaque fois, puisque même si aujourd'hui on a un peu une idée de où se trouve la ville de Troie en Asie mineure, les archéologues ont encore des doutes sur la réalité exacte de son emplacement.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Sensualité et violence très souvent se retrouvent dans cette exposition Homère ou Louvre-Lens, particulièrement quand vous abordez bien sûr les sirènes de l'œuvre d'Homère.
Oui, alors ça c'est très très intéressant parce qu'en fait dans l'Antiquité grecque, les sirènes étaient des femmes oiseaux. Et dans le texte de l'Odyssée, elles ne sont pas dans la mer, elles sont dans un champ le long de la rive. Et en revanche, dans la tradition nordique, de la mythologie nordique, les sirènes sont des femmes poissons. Et c'est très intéressant dans la même salle de voir les représentations de la scène des sirènes de l'Odyssée dans l'Antiquité, où on voit des femmes oiseaux, sur les vases grecs ou dans des sculptures, et de voir comment est-ce que par la suite, les peintres, surtout du XIXe siècle, ont représenté l'épisode. Le seul qui fait exception étant Marc Chagall, qui est le seul qui représente les sirènes comme des femmes oiseaux, c'est-à-dire avec une fidélité, je dirais, archéologique. Les autres faisant une sorte de contamination entre la mythologie grecque et la mythologie nordique, en montrant ces femmes poissons. On a des très beaux exemples, entre autres de Rubens, qui représente dans des petites esquisses ces scènes-là.
Alors, Homère ou le collectif qui se cachait derrière Homère auront comme imposé quelques sérieux problèmes à la censure au fil des temps.
Oui, parce qu'il y a des épisodes qui sont très...
Au fil, parlant tout de suite de tapisserie, parce qu'on apprend des choses dans cette exposition.
Bien sûr, parce qu'effectivement, dans l'exposition, nous présentons des tapisseries, parce que c'est un art qui a représenté tous les grands sujets mythologiques, ouais. et particulièrement les scènes homériques. Il faut imaginer que autant des petits dessins, des gravures, des tableaux étaient plutôt du domaine de l'intime, du domaine du privé, autant une tapisserie, par définition, c'est un décor, donc c'est quelque chose qu'on met dans un lieu public. Et certaines scènes, soit par leur violence, soit par leur érotisme, peuvent vraiment être considérées comme scandaleuses. L'Église a d'ailleurs toujours eu une relation assez méfiante par rapport au texte homérique, hein, qui n'était pas interdit, mais qui était quand même considéré comme des textes qui sentaient un peu le soufre. D'abord parce qu'il y a du polythéisme, évidemment, par nature, puisque nous sommes dans la mythologie grecque, mais également parce que les sentiments humains sont extrêmement exacerbés et généralement pas maîtrisés. Au bon sens du terme, d'ailleurs, c'est-à-dire que les colères sont extrêmement violentes, les vengeances sont terribles, et l'amour est extraordinaire, l'amour paternel, l'amour conjugal.
Et puis surtout, les dieux sont nombreux et variés.
Les dieux sont nombreux et variés, ils sont méchants, ils sont rieurs aussi, ils aiment bien jouer avec les malheurs de l'homme, et chacun a son camp. Donc évidemment, dans le texte homérique, on suit comme cela des épisodes où les dieux décident du destin de tel ou tel des héros en fonction de l'histoire qui avance de manière assez inexorable.
comment aussi ces histoires homériques ont été interprétées en musique, c'est présent dans cette exposition Homère. Mais alors, vraiment ce que je trouve tout à fait stupéfiant, parce que vous avez réussi à le faire, c'est aussi faire entendre Homère dans le texte, dans les mots, chez des poètes, comme Baudelaire. Alors tout cela, à la radio ça passe, dans un cours ça passe, dans un livre ça se tient, mais pour montrer ça dans une exposition... Eh ben, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous avez de très très bonnes idées qui étaient plutôt originales. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Vincent Pomarel?
Oui, alors je pense que ça repose sur la diversité des commissaires, parce qu'en fait nous sommes quatre commissaires qui venons d'horizons très différentes. Alain Jaubert, qui a vu l'idée de l'exposition d'ailleurs au départ, est un écrivain, un cinéaste, quelqu'un qui a une grande ouverture d'esprit, qui a lui-même été marin, donc il connaît très très bien le monde d'Ulysse. Alexandre Farnoux est directeur de l'École française d'Athènes, grand archéologue, spécialiste d'Homère, et Luc Pirala. Comme moi, nous sommes des spécialistes de l'époque moderne, plutôt 19e siècle. Et moi, j'ai une passion pour le cinéma et la musique, évidemment, qui explique beaucoup de choses. Et aussi pour l'humour, parce que il fallait quand même mettre dans l'exposition un petit peu de rire homérique. Donc je pense que c'est ce mélange, en fait, entre nos spécialités et nos personnalités qui fait que chacun a essayé de développer au mieux qu'il pouvait un sujet. Par exemple, Alexandre Farnoux voulait faire comprendre au public que, comme l'œuvre a été composée sur 5 ou 6 siècles, quand on regarde le texte, il y a des objets qui sont du 8e ou du 9e siècle avant Jésus-Christ, qu'on décrit et dont on voit très bien qu'ils sont de cette période, et d'autres qui sont du 1er ou du 2e siècle avant. Donc un écart de plusieurs siècles entre des objets qui sont dans le même texte. Donc c'était son obsession et il l'a très bien représenté dans une vitrine anachronique extraordinaire. Moi j'avais très très envie de montrer comment est-ce que les écoles d'académie au 19e siècle ont utilisé les sujets homériques et particulièrement dans leur sensualité, leur violence, pour faire briller les jeunes élèves et les gens qui passaient des concours. Alain Jaubert était passionné de littérature
qui dit littérature, c'est comment exposer ça?
C'est pas forcément simple. Alors évidemment, on peut utiliser des manuscrits originaux. Il y a une pièce qui est très émouvante, c'est un manuscrit d'Homère annoté par Racine, où Racine, qui a beaucoup utilisé dans son théâtre les histoires homériques, fait des commentaires sur ce qu'il a vu dans Homère et ce qu'il a envie de prendre. Alors évidemment, ce sont des choses très émouvantes. Bien sûr, des manuscrits. Les livres que possédaient les poètes du 19e ou les livres que possédaient les peintres, les éditions d'Homère qu'ils possédaient et qui ont pu leur servir pour mettre en œuvre leur inspiration. Et puis aussi l'utilisation à certains endroits de l'exposition de la voix, parce que nous avons beaucoup insisté sur cette transmission orale. Et nous avons pensé qu'il fallait que le visiteur entende des conteurs d'aujourd'hui, entende des textes lus, de manière à ce que cette tradition orale qui a été en fait à l'origine des textes homériques se retrouve dans l'exposition aussi. Alors nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir utiliser toute la palette de ce que le numérique propose, soit à travers des douches à son, soit à travers des casques où l'on peut passer des musiques ou des textes, soit sur des écrans. Et évidemment, c'est quelque chose que nous avons beaucoup développé avec des panneaux didactiques qui permettent aux visiteurs de retrouver certains textes et certains thèmes, et avec un parcours pour enfants aussi, de manière à ce que les jeunes visiteurs puissent retrouver tous ces thèmes expliqués d'une manière peut-être un peu plus simple.
Et puis à la fin, le texte, les textes d'Homère, c'est-à-dire l'Odyssée et l'Iliade.
Oui, qui reste des moments constants dans l'exposition, puisque nous sommes obligés sans arrêt de raconter les histoires que nous montrons dans les tableaux ou sur les vases ou dans les œuvres d'art. Et l'exposition se clôture effectivement sur d'une part Homère aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce que Homère représente pour le public d'aujourd'hui, et cela va depuis les prénoms qui sont toujours utilisés aujourd'hui. On utilise toujours Achille, Ulysse, il y a des faire-part, il suffit d'aller sur internet Pénélope, pour voir ça. Pénélope bien sûr. Les noms de restaurants, de produits, d'hôtels, de clubs de foot à Amsterdam, etc., qui viennent en fait qui sont d'origine homérique. Et puis une réalité aussi qui est que Homère aujourd'hui, c'est aussi le Seigneur des Anneaux de Tolkien, c'est aussi la Guerre des Étoiles qui se sont inspirés.
Je peux même rajouter Game of Thrones. Hein.
Oui, exactement. Toutes ces nouvelles histoires épiques qui ont été écrites depuis, mais où on retrouve le souffle homérique et aussi certaines inspirations, même parfois littérales, de ce qu'il a pu inventer dans ces histoires.
Homère, l'exposition, c'est au Louvre-Lens jusqu'au 22 juillet. Merci Vincent Pomarède d'être passé ce matin nous en parler.
Merci infiniment.